Alors, on va essayer de faire à la fois simple, mais j'aimerais bien que vous repartiez avec des informations sûres. Alors, non, le troubadour, on va commencer par les noms. Non, le troubadour n'est pas celui qui va jouer de château en château, sous les fenêtres d'une belle dame, du luth ou de la vielle à archer, en attendant quelques croûtons de pain. Non, le troubadour n'est pas celui qui va danser devant le Seigneur en chantant des chansons plus ou moins compréhensibles et qui n'intéressent personne. Non, le troubadour n'est pas le personnage mis en évidence par Jehan de Notre-Dame. Il n'est pas fabuleux au sens où Jehan de Notre-Dame le dépeignait dans les biographies, puisqu'il n'a retenu d'eux que les contes et les légendes. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Et non, le troubadour n'est pas celui que vous croyez, qui est au coin de la rue en train de faire la manche en chantant des chansons aujourd'hui avec sa guitare. Mais peut-être le troubadour pourrait être aujourd'hui réincarné dans les chansons de Pete Seeger, de Joan Baez ou Bob Dylan. Ça ne pose pas du tout de problème de terminologie, troubadour, aux Américains de la protest song. Alors, commençons au début. Troubadour, c'est celui qui pratique le trobar. Trobar, ça veut dire trouver. Vous savez, ça donne trouvère en français, en vieux picard. D'ailleurs, il y a une très mauvaise traduction de Giuseppe Verdi avec il trovatore. Ce n'est pas le trouvère, c'est le troubadour, puisque trovatore, c'est le troubadour, traduit en italien. C'est Dante Alighieri qui le dit, on peut se fier, je pense à lui, puisqu'il se disait, lui et l'autre grand inventeur du dolce stil nuovo, Francesco Petrarca, trovatori ma non suonatori. C'est clair comme de l'eau de roche. On est des trouveurs, mais on n'est pas des fabricants de sons. Et si vous permettez, on va commencer par eux, puisque c'est grâce à Dante Alighieri et à Francesco Petrarca que les études romanes, en étudiant ces grands maîtres du dolce stil nuovo, ont découvert les troubadours. Ou dans la commedia. Qu'est-ce qu'on y voit dans la commedia? On voit Bertrand de Born, troubadour, qui se promène avec sa tête tranchée comme une lanterne. On y voit qui? On y voit aussi Sordello, Sordello de Goito, qui dit non sono sordello, però qui c'è bordello. Et il dit ça à Virgile. Dans l'enfer de Dante, on trouve la plupart des troubadours, puisque nos deux compères du dolce stil nuovo étaient de grands connaisseurs de troubadours et avaient lu vraiment les manuscrits. Il faut savoir que les manuscrits avaient été compilés en Italie par Ferrarin de Ferrare, à la cour des marquis d'Este. Donc, c'était plus facile de trouver des manuscrits de troubadours en Italie que en Languedoc. Et c'est Napoléon qui a ramené en France les manuscrits qui nous servent aujourd'hui de référence. Si vous avez de quoi noter, notez manuscrit 22 543 FR à la Bibliothèque nationale de France. C'est très important pour ceux qui aiment la musique, parce qu'il y a là la plupart des mélodies de troubadours. Il y a également le manuscrit 12 473 à la même bibliothèque. Et ce manuscrit-là fait état des chansons et des biographies. Et c'est parce qu'il y a eu toutes ces biographies que justement aujourd'hui cet univers troubadouresque nous paraît bien insaisissable. Parce qu'on ne sait plus faire la part entre à la fois la légende, la vérité et puis le folklore. Donc, sachez que je vais vous parler uniquement de ce qu'ont écrit les troubadours. Je travaille depuis longtemps sur le sujet et j'ai eu comme maître un hérétique, René Nelly, qui a abordé les troubadours non pas comme un philologue, non pas comme un musicologue, non plus comme un organologue, non plus comme un linguiste, mais comme un poète et un philosophe. Et c'est finalement la vérité, si on peut parler de vérité. Mais vous savez, chez les troubadours, on dit vers, ce qui veut dire vrai, on dit vers, ce qui veut dire vrai, on dit veraille, ce qui veut dire vraiment, et on dit vers, et ça veut dire pas vrai du tout. Vérité ou mensonge. Et c'est le double langage du troubard, où l'amour se retrouve masculin et féminin, la dame devient un seigneur, et tous ces mots ont disparu de la langue occitane contemporaine. La domna, pour ceux qui ont fait du latin, domina, c'est la dame. Mais c'est aussi miduns. Miduns, c'est mon seigneur. Mais c'est également mon don. C'est pas beau ça? Mon don. Miduns. Et ce qui est très intéressant à souligner, c'est que dans la poésie des troubadours, nous sommes toujours dans une première, une deuxième et une troisième lecture. Première lecture, c'est pour les nessis. Ça veut dire les imbéciles. Ça commence toujours comme ça, une chanson de troubadour, maintenant que le printemps reverdit et que les fleurs embaument les prés, que les chansons envahissent les cours et que les oiseaux chantent, je vais vous faire une petite chanson sur une légère mélodie. Et là, on se dit, chic alors, ça va être bien. Mais malheureusement, dès le deuxième couplet, on s'aperçoit qu'on ne comprend plus rien. Par exemple, le premier troubadour. Alors, le premier troubadour est un grand noble, un des seigneurs les plus importants de l'Europe médiévale. C'est le comte Guillaume IX de Poitiers. Ça commence très fort, hein, dès 1100. Alors, il faut savoir qu'en 1100, il a 30 ans, il est amoureux de la vicomtesse de Châtellerault, et hors mariage, évidemment. C'est sa maîtresse, il sera excommunié une fois, deux fois, trois fois, mais à cette époque-là, on pouvait aller à Rome, se rendre à Rome, et puis faire lever l'excommunication, et puis revenir, etc. Ça pouvait durer longtemps. Il en a profité, d'ailleurs. Et notre cher Guillaume IX de Peiteus, Guillaume de Peiteus, faisait surtout des chansons pour ses compagnons. Ses compagnons qui étaient également ses compagnons à la guerre et au jeu d'amour également. Je ferai un vers sur le droit néant. Il ne sera ni de moi, ni d'autrui, il ne sera ni d'amour, ni de jeunesse, ni de rien d'autre, car il fut trouvé plutôt en dormant sur un cheval. Je ne sais à quelle heure je suis né, je ne suis ni joyeux, ni triste, ni étranger, ni intime, et je ne peux faire autrement, car je fus de nuit fait sur un puits haut. Un vers, c'est-à-dire un poème, du versus hein, en latin, versus en latin, qui va sortir du néant. Et c'est ça le troubard. Le troubard, j'ai un ami philologue qui dit, le troubard c'est un opni, objet poétique non identifié. J'aime assez cette formule. Le poème va sortir à la fois de la connaissance de la poésie des antiques, mais va en prendre le contre-pied. Tout l'art de troubard va jouer là-dessus. On va s'inspirer d'Ovide, l'art d'aimer, bien sûr, et puis de quelques grandes légendes qui circulent en Europe, comme le lait du chèvrefeuille, etc., les Carmina Burana, on va extraire des connaissances de la tradition et des connaissances des belles lettres, comme disent les troubadours eux-mêmes, des chansons qui seront des canzos, qui vont parler vraiment d'autre chose. Qui vont parler d'abord du métier de trouveur. Là, nous avons de bons exemples avec, par exemple, Geoffrey Rudel de Blaye, qui dit « Nous sap chanta qui sou nous dit ». Il ne sait pas chanter celui qui ne sait pas le son. Nous sommes quand même en 1140. Et dès le début, nous avons des postulats poétiques. Avec le comte de Poitiers, nous avons les clau et les contra-clau, les clés et les contre-clés. Et nous avons tout un vocabulaire de troubard qui va se mettre en marche et qui va durer quand même 200 ans. Et là, nous avons un concept nouveau avec Geoffrey Rudel qui, autour de 1125, 1130 par là, vous savez, on arrive, c'est pour ça, je disais tout à l'heure à Dominique, non, je ne suis pas historienne du troubard, parce que ça n'existe pas, les historiennes du troubard. Nous avons trop, un historien fonctionne avec des dates et des repères bien précis. Or, on ne peut pas être un historien de troubard, on peut juste établir une chronologie. Geoffrey Rudel, de Blaye, sa biographie dit ceci. Geoffrey Rudel de Blaye fut un homme très noble, prince de Blaye. Il s'énamora de la comtesse de Tripoli, sans la voir, pour le grand bien et pour la grande courtoisie qu'il entendit dire d'elle. Et cette petite biographie fait l'introduction des chansons, et toutes les chansons de Geoffrey Rudel auront le même thème, c'est l'amour de loin, l'amour des lougnes, c'est aimer une personne que l'on n'a jamais vu et dont on a entendu dire grand bien, et bien sûr, sa beauté, ses cheveux, ses yeux, etc. Bon, rassurez-vous, les critères de beauté chez les troubadours, je me suis amusé à faire un petit recensement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, chez Peyre Vidal, le critère de beauté, c'est les cheveux noirs, le nez busqué, et les bras, la pelle grassane, ça veut dire les dames qui essaient de perdre du poids, comment on dit. Ben voilà, bien dodu, merci. Non, pas gras, grassane, c'est pas pareil, c'est la subtilité. Donc, qui était la comtesse de Tripoli, et on dit que le troubadour, Geoffrey Rudel, toute sa vie composa des chansons pour cette dame qu'il n'a jamais vue. Et la légende renchérit en disant qu'un jour il se serait embarqué, bien sûr, il aurait accosté à Tripoli, et puis là il serait mort dans les bras de la princesse qui lui aurait fait faire un beau tombeau. C'est beau, hein? C'est tellement beau que Stendhal et Rostand en ont repris l'idée et ont développé cela dans leur littérature. Et chez les romantiques allemands, Heinrich Heine, sous les traits de Mélisende, dépeint cette personne de Tripoli qui est la plus belle du monde et de laquelle il va s'énamorer pendant longtemps. Nous sommes juste au XIIe siècle et tout est dit avec ces deux troubadours, ou presque. Le premier va parler de l'art de troubard, de l'atelier. Alors tout cela se fait en langue occitane, que l'on n'appelle pas langue occitane, on n'appelle pas ça occitan au départ, cette coïnée, puis si vous voulez bien, puisqu'il faut savoir que les manuscrits sont absolument harmonieux sur le plan linguistique, donc cette coïnée va être définie sous le nom de langue de Quercy ou bien langue de Provence, en Provence. Et on ne l'appellera que plus tard langue d'oc. Et c'est Francesco Petrarca qui lui donnera cette terminologie, langue d'oc. On trouve dès le XIIe siècle, un premier troubadour qui va parler de l'amour hors mariage et qui va parler de l'atelier de troubard. Un atelier dans lequel il va inventer les mots fin, par exemple. Le mot fin, fin en occitan, veut dire pur, fin, subtil et purifié. Et comme par hasard, c'est un mot qui est utilisé par des alchimistes qui cherchaient à purifier l'or. Cette image, d'ailleurs, ne quittera jamais les troubadours. Et même à la fin du XIIIe siècle, le troubadour Raymond de Miraval, qui disait à une dame, « Dame, vous pouvez aimer les hommes que vous voulez, mais entre l'or et l'étain, choisissez l'or. » Et entre l'amour verse et l'amour verraille, vert, choisissez l'amour le plus pur, de sorte à ce que l'or, pour vous, devienne plus pur encore. Et très intéressant, les troubadours ont toujours donné un nom à cet amour. Et ils l'ont appelé art d'amar, l'art d'aimer. Ils l'ont juxtaposé avec le parallèle art de troubard. Art de trouver, art d'aimer, fin troubard, fin amar. Tout cela s'appelle une sorte d'entrebescamen. Entrebescamen, ça veut dire enchevêtrement. Et c'est cet enchevêtrement que les troubadours vont développer pendant 2 siècles. Et cela se fait sous forme, évidemment, d'école. Il me dit, bien sûr, l'école, oui, bien sûr. Il y avait des rencontres inter-troubadours, où les troubadours faisaient montre de leur savoir. Car les chansons se font à la fois pour le public, mais surtout pour les intendants qui sont les connaisseurs. Alors, que faut-il pour faire une chanson chez les troubadours? Il faut, premièrement, la razou. La razou, c'est la raison, c'est le thème, c'est le motif. Évidemment, ça semble évident, mais c'est écrit dans leur chanson. Et quand Geoffrey Rudel chante « Nous sapchanta qui so nous dit », il ne sait pas chanter celui qui ne sait pas dire le son, vous allez comprendre pourquoi. Il faut la raison, il faut le mut, le mot, et il faut le sound, c'est-à-dire le son. Le son qui peut être le son de la langue ou le son de la langue avec l'instrument. Alors, vu que je n'ai pas vécu au XIIe et XIIIe siècle, je ne peux pas vous dire à quoi ça ressemblerait un troubadour qui chante une chanson comme celle que je vais vous dire, qui n'était pas d'ailleurs prévue avec le chant, mais simplement avec le son. Ares plan la flur sember, s'appel trencan, rang s'appel tertris cal flurs. Neuchel secund la pisque, cotse destren ne trenca. Don vei mors qu'il crisbrai ciscle, en feien rame en giscle. E mi vertan e chausen joy, que sai chausen, lus balen crois. D'un baiser, je vous renverse, dame, rien n'y peut, ni plan, ni tertre, ni menace, vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui attrapent tant mon cœur en joy que je n'ose avoir désir traître. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Le désir traître. Tiens, tiens. Le désir traître. On revient à nos chers compagnons du premier troubadour, que l'on appelait le trichadou des donnas. Je traduis le tricheur de dames, le tricheur, le menteur. Donc, excusez-moi, vous voyez poindre à l'horizon la poésie moraliste qui se dégage de ces échanges amoureux en poésie. Les troubadours en feront des tenso et des jocpartites, c'est-à-dire des débats entre troubadours, troubairis, 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 troubadours, troubadours, sur tous les sujets. Et celui-ci, évidemment, est l'un des plus importants. C'est-à-dire que va se développer, à partir de la moitié du XIIIe siècle, une poésie qu'on appelle le troubar léu, et ça on le doit à Bernard de Ventadour, qui va être une poésie qui va parler des rapports entre le troubadour et le troubar, toujours ce rapport obsessionnel, du miroir. Cette image sera reprise plus tard par Paul Éluard. On va voir dans cette conceptualisation poétique du troubar la recherche de l'équilibre amoureux entre l'homme et la femme, mais aussi entre la femme et la femme, l'homme et l'homme. René Nelly parlera d'amour-amitié. J'aime bien cette formule, amour-amitié, car elle dépasse l'amour. Et les troubadours ne parlent jamais de l'acte sexuel. C'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante pour les troubadours, c'est de parler de l'amour, de mettre des barrières, le plus de barrières possible. Bon, déjà, c'est l'amour hors mariage envers une femme mariée. Mais vous savez qu'au Moyen-Âge, le mariage, ça ne veut pas dire grand-chose. On pouvait être marié à 14 ans avec quelqu'un qu'on ne voyait jamais de sa vie. Mais malgré tout, cette personne était noble et avait des responsabilités, etc., comme notre chère Ermengarde de Narbonne, qui était chantée par un troubadour auquel elle n'a jamais cédé. Mais peut-être parce que ce n'était pas un bon troubadour. Parce que dans la poésie de Joël Bousquet, si certains connaissent, le pouvoir de la plume est peut-être plus persuasif que le pouvoir de la séduction, de la simple séduction. Et les troubadours vont jouer là-dessus, dans leur troubar, en permanence. C'est-à-dire, ils vont être dans la subtilité de la séduction et ils vont l'écrire. Bien sûr que l'acte existe chez les troubadours. Raymond de Miraval, fin du XIIIe siècle, dit « Écoutez, moi ce que j'aime de madame, c'est quand je l'embrasse, c'est quand je la baise, et puis au diable les cordons, les manches et les politesses. » C'est pas une attitude de macho, c'est juste une revendication, parce que le même va dire à cette dame qu'entre deux amants, il vaut mieux prendre celui dont l'or pur, etc. Je voudrais vous parler d'un troubadour qui a beaucoup influencé Dante Alighieri et qui s'appelle Arnaud Daniel. Pour Dante Alighieri et Francesco Petrarca, Arnaud Daniel, c'était il miglior fabbro del parlar materno, le meilleur forgeron que lui, entre guillemets, du parler maternel. Et tous les deux vont l'opposer, Pétrarque comme Dante, à celui qui était, à l'époque d'Arnaud Daniel, appelé le maître des troubadours, le maître des troubadours, qui était Giraud de Bourneil. Giraud de Bourneil, pour Dante Alighieri, n'était que le poète de la rectitude. Effectivement, il savait faire des sirventes, il savait faire des chansons, il disait dans un de ses poèmes à Rainbow d'Orange, « Moi, je sais écrire dans tous les styles et je sais faire les chansons que même les porteuses d'eau peuvent chanter. » Et Rainbow d'Orange lui répète, « Moi, les porteuses d'eau, ça ne m'intéresse pas, je ne bois pas d'eau et je ne m'intéresse pas du tout aux chansons légères. » Et ce même Rainbow d'Orange se faisait appeler l'ignore par les autres troubadours. C'était son surnom, vous savez, l'ignore, c'est celui qui était le grand séducteur, qui se vantait de toutes les prouesses de séduction. Donc, dans ce débat troubadouresque, on trouve Arnaud Daniel, meilleur fabre del parlar materno. C'est lui qui va développer dans cet art de troubar, le concept pour faire une chanson, il faut. Obre elim demuts prim demuts de valour. Il faut ouvrir et raboter et limer des mots de valeur et des mots qui soient primes, frais, premiers. Et tous les troubadours écriront sur le sujet et ça, c'est un sujet qui fait école, bien entendu. Je voudrais juste, si je retrouve mes chansons, vous chanter une de ces chansons de notre cher Bernard de Ventadour, puisqu'il m'a dit qu'il fallait que je chante un peu, où on voit que chaque mot est à sa place, et je reviens encore à Geoffrey Rudel, le Sapchanta qui son nous dit, il ne sait pas chanter celui qui ne sait pas dire le son, et ma chanson, vous verrez, elle s'améliorera, et ici vous l'entendrez en Limousin ou en Quercy. Bon, je retrouve pas mes notes, je vais essayer de vous la chanter par cœur, et ça fait... Quand veille la osette mauvais, de joie s'asalas contre le rai, que s'oublie dans l'aïsa chassé, per la douce ou qu'al cor li vai. Ai, tan gran invece amen ve, e chi goveia a giausiu, e car non place e carme, lo bel narcissus e la fu. Cette mélodie attachée à la chanson de l'Alouette de Bernard de Ventadour devait avoir un franc succès à son époque, puisqu'on la retrouve copiée en 10 versions différentes dans les manuscrits. Donc ça veut dire que c'était une chanson connue. De quoi parle-t-elle? Elle parle de l'Alouette. Vous savez, une Alouette qui s'envole vers le ciel et qui se laisse choir, et puis au moment de toucher terre, remonte inlassablement. Et ça, c'est le premier couplet. Et puis après, notre cher Bernard de Ventadour va traverser le miroir, il va s'adresser à son miroir en lui disant que le miroir lui ment. Et là, cette image sera reprise par quelqu'un que j'ai chanté l'an dernier ici, Pierre Reverdy. Et les deux ont le même destin. Ils finiront tous les deux enfermé à l'ordre de Dallon. Bernard de Ventadour, en pleine gloire, puisqu'il avait 8 jongleurs qui lui commandaient des chansons, c'était un véritable entrepreneur de spectacle, qui allait chanter ses chansons partout. Et quant à Pierre Reverdy, il n'aura pas eu la même gloire, mais il ira quand même s'enfermer à l'ordre de Dallon, refusant le monde et puis tous ses attraits faciles. Voir chemin tournant, le monde où j'ai perdu mon temps. Pierre Reverdy, juxtaposition, ce poème de notre ami Bernard de Ventadour. Ça va, vous suivez? Parce qu'on fait des allers-retours chronologiques, là. L'école des troubadours. Parce que, bien sûr, on a des témoignages. Le troubadour, Peyre d'Alvergne. Don Dante Alighieri, encore lui, disait « L'autre, à savoir la Languedoc, peut à son tour se vanter de ce que les poètes vulgaires se sont d'abord servis d'elle pour composer leurs vers en tant que l'idiome le plus parfait et le plus doux, tel Peyre d'Alvergne et d'autres anciens docteurs. » Et il l'écrit, bien sûr, dans la Divina Commedia. Le troubadour Peyre d'Alvergne fait état d'une rencontre intertroubadour qui aurait eu lieu dans un endroit nommé Puyvert, Pochvert. On ne sait pas si c'est le Puyvert dans l'Aude ou le Puyvert en Catalogne, et il y dit « Chantarei d'aquest troubadour que chantan de mantas culur, el piege cuida dir mugent, mas a chantar nous les ayur, qu'entre maître veille, sem pastour, qu'us nous sap, qu'es mundo nous disent. Je chanterai de ces troubadours qui chantent de maintes couleurs, et dont le plus mauvais croit s'exprimer fort bien, mais il leur faudra chanter ailleurs, car je vois sans berger, sans mêlée, dont pas un ne sait en chantant s'il monte ou s'il descend. De cela est coupable Peyre Rogier, et c'est pourquoi il sera accusé en premier, etc., etc. Le second, c'est Girao de Bourneil, il semble une outre sèche au soleil, avec son chant maigre et lamentable. Lui-même, s'il se regardait dans un miroir, ne se priserait pas la valeur d'un gratte-cul. Le troisième, Bernard de Ventadour, est inférieur à Bourneil d'un travers de main. Il eut pour père un serviteur à tirer de l'arc à main de bourg, et sa mère a chauffé le four et ramassé sa main. Le quatrième, de Brive, le Limousin, et le jongleur le plus quémandeur qui soit, jusqu'à Bénavent, et l'on dirait qu'un pèlerin malade quand il chante, le malheureux, si bien, pour un peu, j'en aurais pitié. Le cinquième, c'est Guillaume de Ribas, etc., etc. La liste est longue. La liste est longue, oui. Nous arrivons au dixième. Le dixième est... Ah, non, le neuvième. Non, prenons le neuvième. Car le neuvième, c'est Rimbaud d'Orange, qui se montre trop orgueilleux de son troubard, mais moi je le réduis à néant, car il n'est ni allègre ni chaud. C'est pourquoi j'estime autant les joueurs de cornemuse qui vont quémandant les aumônes. Notre cher Rimbaud d'Orange, c'est celui qui fait « Aresplan, la flour s'embelle, s'appelle trincan, rang, s'appelle terre, c'est scalflour », celui qui n'aime que la poésie hermétique. Mais il participe à cette rencontre. Pourquoi? On ne sait pas, mais il y est. Et puis le douzième, et enfin il arrive à lui, et Peyre d'Alvergne a telle voix qu'il chante au-dessus et au-dessous, haut et bas. Il se vante fort auprès de toutes gens. Pourtant, il est le maître de tous, pourvu qu'il éclaircisse un peu ses paroles, car c'est à peine si quelqu'un les comprend. Ce vers fut fait au son des cornemuses à Puyvert, tout en jouant et en riant. Donc ceci a été écrit autour de 1130. Presque 80 ans plus tard, le moine de Montaudon parlera aussi d'une rencontre inter-troubadour. Et sa chanson commence ainsi. Pospeire d'Alvergne a chantat del troubadour qui sum passat, chantare alme wessien da quelques pouces et sum lebat. Puisque Peyre d'Alvergne a chanté sur les troubadours qui sont morts, je chanterai, suivant l'opinion que j'en ai, sur ceux qui depuis ont apparu et qu'il n'est contre moi nul courroux au cœur si je critique en eux ce qu'ils ont fait de mal. Et là aussi suit une longue liste de 17 troubadours. Cet état de fait témoigne que le métier de troubadour, c'était un métier. On se cultivait, on apprenait les belles lettres, comme disait Girao de Bourneil, et puis on allait chanter les chansons que l'on avait faites. Et comment faisait-on des chansons? Je vous l'ai dit dans la première chanson de Guillaume IX, la plupart du temps à cheval. Même quelquefois en dormant à cheval. C'est ce que nous dit notre cher Guillaume de Peytéus. Parce qu'il faut savoir que l'homme du Moyen-Âge passe la plupart de sa journée à cheval. Et voyage énormément. Il faut savoir que les chansons de Peyre Vidal, par exemple, se retrouvent à la cour de Thibaut de Champagne au Portugal. Lui-même enseigne la vielle et l'art de trouver au jeune roi Peyre d'Aragon. Et on retrouve les chansons de Peyre Vidal, qui est de Toulouse, à la cour de Émeric de Hongrie. Donc, si on prend uniquement ce troubadour, et sur un laps de temps de 50 ans d'activité poétique, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est allé un petit peu partout en Europe. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si l'une de ses chansons a été imitée par le trouvère Gassé Brûlé, imitée également par Neidhard von Ruental pour le Minnesang allemand. Donc, cette idée que l'on aurait que les troubadours, c'est le Languedoc, c'est une petite partie de l'Europe, on y fait des petites chansonnettes, etc., est totalement fausse. Il faut savoir qu'à un moment, la langue de la poésie, c'était vraiment la langue du troubard. Et je pense que si Dante Alighieri et Francesco Petrarque ont fait émerger de la façon la plus forte possible la langue vulgaire au détriment du latin, c'est parce qu'ils se sont inspirés fortement des troubadours, qu'ils en ont pris la substantifique moelle, comme disait notre autre grand poète français, celui-là, de Bordeaux. Donc, le trobar, c'est ça, c'est une poésie qui est sans limite, qui n'a rien à voir avec une poésie courtoise au sens politique du terme. Elle n'est pas du tout établie, puisque cet art de la parole libre que pratiquent les troubadours se voit dans toutes les chansons, et aucun n'hésite à critiquer ouvertement soit l'église de Rome, là nous sommes dans la dernière période du troubar, quand il y a la croisade contre les albigeois. On voit que nous avons affaire aux troubadours, aux politiques qui vont énormément critiquer à la fois les seigneurs locaux qui se laissent faire et qui se vendent aux Français, et également les clercs qui se conduisent de façon débauchée et qui, au nom de l'Église, vont faire toutes les exactions possibles et imaginables. Le dernier troubadour, Guiraud-Riquier, autour de 1270, laissera des chansons qui font état effectivement de cela, et c'est pour ça qu'il cherchera à partir en Espagne. Il ira à la cour notamment du roi de Tolède, Alfonso el Sabio, où il passera 15 ans, où il enseignera même le troubar. Il sera docteur de troubar, et puis il reviendra mourir en France. Mais ce que nous avons à retenir de la poésie des troubadours, du troubar, c'est surtout qu'ils ont été les premiers inventeurs. Ce n'est pas étonnant si Louis Aragon, Paul Éluard, si les grands poètes modernes ensuite ont rendu hommage à cet état d'esprit. Alors, il serait trop long, bien sûr, de rentrer dans les détails. Je peux dire qu'il y a des chansons, par exemple, qui sont de vraies réflexions philosophiques, qui ne sont plus des chansons, quoi. D'ailleurs, elles n'ont pas de musique. Certaines chansons ont une mélodie, d'autres non. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, il y a 248 chansons qui ont une mélodie, répertoriées dans les manuscrits que j'ai cités au départ. Tous les autres textes, ce qui représente à peu près 8000 textes, ce sont des textes qui sont sans musique, sans mélodie. Que la mélodie musicale, c'est celle du système classique du pape Grégoire imposé, dont le grégorien. En l'occurrence, c'est le grégorien sur 4 lignes, avec une clé musicale qui bouge, qu'on appelle le guidon, parce qu'il fallait économiser la peau de porc, ça coûtait très cher. Et d'ailleurs, le troubadour Arnaud de Tintignac, dans son témoignage, dit « Voilà, joli clair, je viens de terminer ma chanson. » Il écrit ça à la fin de la chanson. « Tu peux me la mettre en écriture, car chaque mot y est à sa place. » Donc, la chanson avait à la fois valeur de symbole et était un objet d'art. Cet objet d'art, une fois copié à la demande du Seigneur dans un scriptorium, sera conservée précieusement, et puis ensuite apprise par cœur par les jongleurs, et puis ensuite chantée partout, et cela va durer très longtemps pour certaines d'entre elles. L'art de la mélodie chez les troubadours, c'est quelque chose qui, j'avoue, est très compliqué, parce que là, il faudrait rentrer peut-être dans le domaine de l'interprétation. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est peut-être plus simple. Voici une mélodie de Peyre Vidal dans un manuscrit qui fait Posturnat suiem pruensa et madonna sapu, bendei fagaia chansu, si valpere cunoisensa. Alors, que dit la chanson? La chanson dit que Père Vidal a volé un baiser à la dame Barral, chez qui il était hébergé, pendant qu'elle dormait. Elle en a fait un scandale, évidemment, et donc il s'est enfui, prétextant qu'il partait en croisade avec je ne sais plus quel roi. Et le mari de la dame et les chevaliers ont demandé à cette dame de pardonner ce baiser volé, et c'est pour ça que Père Vidal revient en Provence et, grâce à ce pardon, a fait cette chanson. Ça, c'est la mélodie que vous venez d'entendre du manuscrit. Mais il y a aujourd'hui mille et une façons de la chanter. On pourrait faire « Posturnatu iem pruensa et amadonna sabu bendei fagaia chansu si valpere conoi senza » etc. On peut faire aussi, comme on a entendu chanter les interprétations, les premières interprétations au départ, vraiment grégorienne alors. Hein. Posturnat suiem pruensa et amadonna sabu. Bendei fagaia chansu, etc. On peut faire aussi à la façon un peu plus traditionnelle. Posturnat suiem pruensa et amadonna sabu. Bendei fagaia chansu, etc., etc. Alors, il se trouve que je travaille avec les étudiants de l'université de Stanford sur l'interprétation des troubadours. On appelle ce programme Performing Troubar. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu avec sa guitare qui me dit « Gérard, moi, j'ai une idée. Écoutez. » Il a pris sa guitare et à la Dylan, il m'a fait « Posturnat suiem pruensa et amadonna sabu vendei fagaia chansu » etc. J'étais complètement d'accord. Parce que, après tout, pourquoi aujourd'hui, quand on chante les chansons de troubadour, quand on est les troubadours, à une image que eux-mêmes ont refusée. Pourquoi? Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Aujourd'hui, quand on s'interroge sur comment aborder ce répertoire de troubards, effectivement, on peut faire toutes les projections que l'on veut. Tant sur le plan philosophique que sur le plan psychanalytique. N'oubliez pas que Lacan a écrit sur le douzil de Marc Cabru. On peut se projeter ou bien tout simplement prendre cette poésie telle qu'elle est et essayer de comprendre. Et là, je vous assure qu'il faut des clés, des contre-clés que je n'ai pas. Soyons honnêtes, le grand problème qui est posé au traducteur, c'est de comprendre le contexte du texte. Et on revient à cette chanson de João Frejedel qui dit « Nous sapchanta, qui son nous dit, il ne sait pas chanter celui qui ne comprend pas le son, celui qui ne comprend pas l'idée, celui qui ne comprend pas ce que j'ai mis dans ma chanson, il ne sait pas chanter celui qui n'essaie pas de chanter. Et vous verrez, plus vous chanterez ma chanson, et mieux vous la comprendrez. Et ici, on l'appréciera en Quercy, en Limousin, et peut-être aussi à la Grasse. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez remarqué que j'ai pas parlé des femmes troubadours? Voilà, il y avait des femmes troubadours qui écrivaient sur des sujets de femmes qui étaient leur sujet au XIIe et XIIIe siècle. Il y a des chansons de femmes qui parlent de la contraception, par exemple. Enfin bref, tous les sujets. L'enseignement de la donzelle, c'est une dame mûre qui parle à une jeune fille comment il faut séduire les hommes. Sans, justement, se faire avoir par les hommes. C'est très intéressant. Tout un programme, toujours actuel. Actuel à jamais. Je suppose que vous avez des questions. Alors, comme tu es musicien, je dois te faire une réponse un peu plus étoffée. Non, non, mais quand même, c'est très important, parce que les musiciens, c'est vraiment leur problème. C'est-à-dire, ce qui est noté, ce sont, dans la notation grégorienne, vous voyez ce que c'est à la plume d'oie, enfin, c'est pas à la plume d'oie, justement, c'est au roseau, puisque vous savez que, avant la notation carré grégorienne, la plume était taillée en biseau, donc ça donnait une écriture toute fine. Et on a appelé ça l'écriture pneumatique. Et on pratiquait la diastématie musicale, ça veut dire on se promenait avec un antiphonaire sous le bras, un livre de chansons. Il y avait le texte, en dessous du texte une ligne virtuelle, en dessus des signes qui indiquaient que l'on monte, que l'on modulait, et en dessous de la ligne, virtuelle bien sûr, des signes qui indiquaient que l'on descendait. Par exemple, alors suivant la voix du chanteur qui se promenait avec son antiphonaire d'un monastère à l'autre qui allait apprendre à chanter, eh bien la ligne pouvait se placer dans une voix de baryton comme dans une voix de contre-ténor, quoi. À l'époque du pape Grégoire, parce que diabolus in musica, on enlève toutes les altérations, on réduit tout sur quatre lignes, et comme entre-temps on a changé la taille de la plume, que la plume est devenue comme ceci, donc à plat, c'est le roseau, la petite virga d'énum, la petite virga virgule, devient punctum et devient un gros carré qui occupe toute la ligne. Et donc, posturnat suiem proensa, par exemple, posturnat suiem proensa, il n'y a que ça d'écrit. Chaque note. Et à la fin, une barre qui n'indique simplement que la fin du vers. Donc, pendant longtemps, les musicologues ont essayé de nous faire croire que cette barre était une barre de respiration. Soit, ça donnerait « Postuna suiem pruenza et amadonna sabu bendei faria chansu si valpere cunoi senza » C'est vrai qu'il faut respirer parce que vous avez remarqué que l'ornementation est énorme et vraiment très fournie. Donc il faut prendre une bonne respiration. Mais je vous assure que dans les chansons de Gaussen Faidit, qui ne sont pas forcément calées sur l'octosyllabe, mais une fois avec des vers à 5 pieds, des vers à 3 pieds, des vers à 13 pieds, etc., eh bien il n'y a pas ces barres. Il y a ces barres qui signifient simplement la fin du vers. Donc c'est tout ce que l'on a sur le plan de la musique. Ça veut dire que, vous comprenez pourquoi je parlais de l'écriture pneumatique, ça veut dire qu'entre-temps, on a perdu ce que les troubadours connaissaient parfaitement, et on le retrouve ça encore dans le flamenco, dans le chant flamenco, et bien sûr dans le chant du macam, on a perdu toutes les altérations, c'est-à-dire toute l'écriture du quart de ton, qui était signifiée par l'écriture pneumatique. Ça veut dire que « Posto natuiem pruensa » ça peut être Posturna tuiem pruensa. Comprenez? Donc Grégoire, il a été castrateur de la musique parce qu'il a institué un système qui est pratiqué donc par Guiraud Riquet, puisque le manuscrit de Guiraud Riquet, qui est le manuscrit le plus fiable, a été. Les chansons de Guiraud Riquet, les 48 chansons de Guiraud Riquet avec la mélodie, ont été copiées sous sa dictée. Mais le problème, c'est qu'elles ont été copiées par des clercs dans les inscriptoriums où l'on ne savait pas plus écrire les neumes, mais simplement l'écriture carrée. Et puis même si on avait pu les écrire, on ne les aurait pas écrits. Exception faite du scriptorium qui a écrit les chansons de Raymond de Miraval, qui a accepté le si bémol. Exemple. Arabla forso de vreis. Donc ce scriptorium a accepté, effectivement, de mettre le si bémol et le mi bémol. C'est pas le bémol qui est écrit, c'est que la note est placée un petit peu en dessous, ni au-dessus, ni en dessous, entre les deux. Et c'est pas un hasard parce que ça se répète plusieurs fois dans les chansons de Raymond de Miraval. Par exemple, Ben Ajal Cortese Sintayam Mayam Mayam. Ça a inspiration quand même macam, c'est clair. Donc les influences musicales, pour finir de répondre, elles sont autant de la culture arabo-andalouse, évidemment, des makams, des sajals. Le makam, c'est une forme de... Si vous voulez, aujourd'hui, on désigne par makam toutes les chansons d'amour de la musique arabo-andalouse du 12e, 13e siècle. Les chansons du makam, qu'on appelle aussi Mouacharouat ou Sajal andalou. Voilà, alors justement, c'est qu'entre-temps, figurez-vous qu'on s'est mis à légiférer l'amour. Eh oui, il y a eu sept joyeux compagnons, la Gaia Compagnia des Troubadours de Toulouse, sous l'impulsion de Guillaume Moulinier et de l'Inquisiteur, qui ont édicter les lois d'amour. Donc là, c'est plus du troubard, hein, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que la dame dont on parle, c'est la mère qui fait des enfants à son seigneur de mari. C'est pas la dame libre des chansons de troubadour. L'amour dont on parle, c'est l'amour divin. C'est pas l'amour adultère de l'amour des cours. Et entre-temps, François Ier a favorisé, comme vous le savez, la langue française au détriment des autres langues. Et puis, on a abandonné. Donc, le troubard, d'un côté, s'est folklorisé à travers Gaston Phébus, qui a été le premier lauréat qui a reçu une violette d'or pour ses montagnes regalades, traduite après en catalan. Et bien sûr, la langue occitane, après, plus tard, sous Jules Ferry, elle sera carrément interdite, hein, ça vous le savez. Mais avant, elle a subi des chocs. Mais les premiers qui ont fait cela s'appelaient les sept joyeux troubadours de Toulouse, hein, qui eux-mêmes ont commencé à réduire le troubard à sous forme de loi, quoi. Les lois d'amour, la leis d'amour. En Catalogne, on aura Raymond de Besalú, qui, lui, ira plus loin encore. Il fera les raseaux de troubard. Vous vous rendez compte? Les raisons de trouver, quoi. Donc, il sera un petit peu plus malin que Guillaume Moulinier, parce que lui, il n'a pas la censure de l'inquisiteur. Raymond de Besalú va faire une sorte, malgré tout, de grande biographie, et il va faire état des troubadours de son temps. Et bien sûr, les troubadours sont partis en exil, comme je disais, par rapport à la croisade contre les Albigeois. On va les retrouver à la cour de Frédéric de Hohenstaufen, en Sicile, beaucoup en Italie. C'est grâce, d'ailleurs, au fait qu'ils étaient en Italie qu'on a tous ces manuscrits, hein, puisque la plupart des chansons ont été compilées en Italie. Et puis, bon, Ils vont aller beaucoup en Espagne, un petit peu au Portugal. Là, ils participeront à cette cour de Thibaut de Champagne qui les protégeait encore. Mais ceux qui sont restés n'ont pas eu la vie facile, quoi. Et bien sûr, comme je disais, on était dans la poésie politique de l'immédiat. Et certains troubadours, quand même, qui ont bravé l'autorité comme père cardinal, qui est considéré par Bédier comme l'équivalent de Villon. Merci, monsieur l'académicien. Vivront jusqu'à 100 ans et mourront tranquillement dans leur lit tout en dénonçant l'Inquisition et le pouvoir en place. D'autres questions ? Ou la nuitée est terminée ? Alors, l'amour, si vous avez remarqué que je ne me suis pas trop étendu là-dessus. Le fin amour, ça va comme avec fin troubard. C'est, comme dit Raymond de Miraval dans sa chanson, c'est l'amour plus pur que l'amour, plus pur que l'or encore. Donc c'est la recherche de la perfection, fin amour. C'est à la fois le mot fin, hein, René Nelly parle de fin au sens de subtil, ça veut dire c'est aussi un jeu. C'est ce jeu du Tricciardo de Donne. Et l'amour courtois désigne tout simplement le fait que l'amour, et ces chansons d'amour, les canzons d'amour, étaient chantées dans les cours, que tout cela était fait en public. Il n'y avait pas de... Et puis, gare aux jaloux, quoi. D'ailleurs, l'amour courtois était beaucoup plus discourtois que courtois, hein. C'est souvent. Bon, René Nelly disait que, finalement, toutes ces chansons de troubadour, les dames qui étaient concernées devaient dormir beaucoup, parce qu'elles ne devaient pas tout comprendre, et on comprend qu'elles ne comprenaient pas tout. Parce que c'était pas évident, hein. Il y avait vraiment la partie des intendens, ça c'était vraiment pour les connaisseurs, et on le voit ensuite, hein, au jeu de l'intertextualité, on voit qu'une formule navigue de ce troubadour à un autre troubadour 50 ans après, elle est reprise, encore améliorée par un autre 100 ans après, pour arriver, comme je disais à table tout à l'heure, que Guirao d'Espagne dit, ben moi finalement, plutôt que d'écrire mes chansons, je préfère chanter le vers du Lavadour qui a été composé 150 ans avant. Donc ça veut dire que les chansons restent, bon, elles sont écrites, hein. Il faut savoir que autant la musique de la tradition, les musiques traditionnelles vont se transformer d'une oreille à l'autre. La tradition orale transforme, mais la tradition écrite fige, ne transforme pas. Et les chansons de troubadour, si nous les avons aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été fixées dans des manuscrits. Sinon, je ne pourrais pas vous en parler. Ah, j'attendais la question. Chaque fois, j'y ai droit. Alors, il faut savoir que les troubadours et les cathares ont coexisté dans le même espace, à la même époque, et qu'il y a des troubadours. Alors, nous avons des exemples. Hein. Par exemple, Raymond Jourdan, dont la biographie dit que sa femme, le vicomte de Saint-Antonin, donc Raymond Jourdan, au retour d'un pèlerinage, revient et il ne trouve plus sa femme parce qu'elle est partie chez les patarins. Voilà, elle s'est enfermée chez les patarins, donc sous-entendre qu'elle est allée vivre dans une communauté de parfaites. On a Guillaume de Durfort, qui est un troubadour qui dénonce forcément la croisade et qui est accusé d'hérésie. On a Peyre Vidal, qui dans une chanson fait une allusion très maligne à 4 ou 5... la chanson dit « Muscor s'allegre ses ciao » Per l'Ugenti Tensuau, et il cite Sessac, et tous les lieux, il y a des hérétiques qui sont condamnés pour catharisme. Donc, ce sont des allusions. Raymond de Miraval, encore beaucoup plus subtil, il s'adresse à la dame Godairenk de Cabaret, dont tout le monde sait qu'elle est qu'elle est vraiment une hérétique notoire, et il lui dit dans une de ses chansons que sur moi vous vouliez bien étendre l'esprit de votre joy, de votre joie. Donc ça, c'est vraiment totalement cathare. Mais bon, c'est normal. Hein? Mais de là à dire que les troubadours étaient cathares, eh bien non, je ne le dirai pas, car tout ce que les troubadours chantent est interdit par les communautés des bons hommes. Donc, le plaisir et tout le reste, l'amour charnel, hein, bien sûr. Donc, pour comprendre aussi, toujours cette notion de fin amour, hein, monsieur, là, il faudrait lire toute la patrologie latine et chercher aujourd'hui, avec votre ordinateur, partout, toutes les mentions amour carnalis. Et là, on va trouver des résonances dans les chansons de troubadours. Puisque quand même, beaucoup de troubadours connaissaient les belles lettres, c'est le latin, c'est la poésie d'Ovide dans le texte. Quoi. Et le grec, pour certains. La nuit est tombée. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup.